des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillée dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Aujourd'hui, le 17 juin, c'est ma dernière émission pour la saison, donc ma dernière rencontre avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Québec, Journal de Montréal, et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, je vais m'ennuyer de toi. Je pense que je vais t'appeler pendant l'été pour te dire « Hey, il se passe telle chose dans l'actualité, qu'est-ce que t'en penses? » On pourrait s'en jaser autour d'une tasse de café.
Oui, c'est vrai. C'est dommage qu'on n'habite pas dans la même ville, parce que je pense qu'on irait souvent piquer des jasettes.
Oui, alors on le fait virtuellement. On le fait par la magie de la radio. Écoute, tu veux me parler de ces sinistrés du Saguenay qui ont tout perdu. Ça te touche une corde sensible parce que c'est de là que tu es originaire.
Oui, je suis originaire de là. Quand il y avait eu le fameux déluge en 1996, moi j'étais partie. En fait, j'avais terminé mes études, mais sauf qu'évidemment, j'ai suivi ça à distance, puis je suis allée voir après sur les lieux, tu sais, tous les dommages que ça a pu faire. Puis là, ben les sinistrés cette année à Saguenay le disent aussi, hein, que ça leur rappelle ces mauvais souvenirs-là, puis évidemment, c'est épouvantable ce qu'ils vivent, là. Tu sais, notre maison, l'endroit où on vit, quand on est propriétaire, c'est à peu près toute notre vie, là. Tu sais, c'est super important. Donc, d'imaginer que du jour au lendemain, on me demandait de quitter ma maison, puis que je saurais que je la reverrai probablement pas, parce que c'est ça qui est arrivé à des gens. Hein.
Absolument.
Des gens qui, dans la maison, est tombé, puis tout ce qu'ils ont pu récupérer, je disais ça cette semaine, là, c'était un petit bibelot en porcelaine d'un des enfants. Tu sais, c'est d'une tristesse sans nom, là, d'imaginer ce qu'ils peuvent vivre, ces gens-là. Puis en plus, dans les circonstances, tu sais, on voit... au niveau des assurances, il n'y a rien qui est couvert parce que c'est un sinistre, une catastrophe naturelle plutôt.
Ouais. C'est ce qu'on appelle « act of God », hein. Je ne sais pas s'il y a une traduction française pour ça, mais en tout cas, quelque chose d'impondérable, d'imprévisible, tu peux pas... donc, les assurances ne peuvent pas tout couvrir, donc c'est vraiment pas évident.
Non, tu sais, on dit que le gouvernement, il doit se tourner vers le gouvernement parce que les assurances, en fait, ils couvrent pas les glissements de terrain quand il y a une catastrophe naturelle. Alors, il y a rien à faire contre ça, là. Tu sais, même si tu veux t'assurer au cas où que, parce que tu es dans un territoire où est-ce que il pourrait peut-être y avoir un glissement, ben c'est impossible. Donc, ces gens-là perdent beaucoup. Ils disent que l'indemnisation maximale, c'est 260 000, mais aujourd'hui, pour 260 000, ça, c'est si tu as accès à l'indemnisation maximale.
Ouais.
Ça, c'est pour le bâtiment, le terrain. Ça couvre pas grand-chose.
Puis non, ça te couvre une porte puis deux fenêtres.
Ben c'est ça. Ça couvre vraiment rien, là. Puis, tu sais, en attendant, ils ont 20 $ par jour. Fait que je pense que ça fonctionne plus, là. 20 $ par jour.
T'es sérieuse?
Rien, là, un café puis une toast. Oui.
C'est 20 $ par jour.
Oui, 20 $ dans le journal, par journée pour manger. Et puis, on leur offre de les loger ou d'aller dans de la famille. Mais avec tout ce qu'ils vivent en plus, ils doivent être dans un état psychologique assez précaire. Puis là, de pas être capable de subvenir à leurs besoins. Puis, ils disaient aussi que les assureurs demandent quand même les paiements.
Non, mais c'est hallucinant. Je ris pas de la situation, je ris de l'outrecuidance et de l'arrogance des compagnies d'assurance. Quand vient le temps là de prendre ta police, puis quand vient le temps de prévoir tout ça là, ils sont tout miel, tout sympathique, tout gentil, tout conciliant. Puis quand tu commences à faire des réclamations là, ça devient ils étaient des agneaux quand ils veulent avoir ton argent puis qu'ils veulent avoir ton contrat. Puis quand t'as un dommage, quand t'as un sinistre, ils deviennent des loups.
Ouais, ben c'est parce que tu sais si t'es dehors de ta maison, que là tu cours après ton argent parce que bon faut que tu manges, faut que tu te loges, puis qu'eux te demandent, exigent les paiements quand même. Il me semble que ça manque un peu d'humanité, mais des fois. c'est pas toujours très humain, hein, ces compagnies-là.
Et je veux juste revenir, Karine, parce que tu as dit le chiffre magique que je ne connaissais pas, là, le 20 $ par jour d'indemnité pour que les gens puissent se nourrir quand ils ont un cas comme ça où ils peuvent pas occuper leur maison, pas être sur leur propre toit. Je voudrais mettre ce 20 $-là en parallèle, si tu le veux bien, avec ce qu'on apprend sur Mary Simon, son voyage au Moyen-Orient, où elle et ses invités, son aéropage là, d'entourage, Anne-Caroline Desplanques qui a calculé que les dépenses sur l'avion de la Défense nationale, ça revient à 213 $ par repas. Parce que dans les repas qui ont été pris sur l'avion pendant le voyage, ça inclut des petits déjeuners, des lunchs et des soupers. Mais donc, tu as des gens qui ont vécu avec 600 $ par jour de repas. Puis pendant ce temps-là, tu as des sinistrés qui reçoivent 20 $ par jour. Je trouve que je ne sais pas pourquoi ces deux chiffres-là me frappent aujourd'hui, puis s'entrechoquent, puis ça tient pas debout.
Oui, ben, je pense qu'il y a une réflexion à y avoir sur ça, là, parce que des sinistres, des catastrophes naturelles, on n'arrête pas de dire qu'on va en avoir de plus en plus à cause des changements climatiques. Ben, je pense qu'il faudrait sans doute ajuster les indemnités qu'on leur donne, là, parce que franchement, le gouvernement provincial, là, il est plus à jour là-dedans. Là. Les besoins de subsistance, là, avec 20 $ par jour, quand on sait ce que ça coûte l'épicerie, tu sais, ça n'a jamais été aussi coûteux. Donc, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Puis, tu sais, on parle des sinistrés, mais par rapport à la météo là, qui se joue au Saguenay, je sais pas pour Montréal, je pense qu'il y a beaucoup de pluie aussi. Tu sais, on voyait, bon, il y a eu des orages hier soir qui ont fait des dommages un peu partout, mais à Québec, à Saguenay, c'est oui, partout fou, là, la pluie qu'on a. Puis, je suis allée relever à Saguenay depuis le 1er juin, là, ce qui cause tout ça, là, c'est effectivement ce terrain-là. Ils ont eu, imagine-toi, 153,9 mm de pluie.
Ouch.
Depuis le 1er juin, alors que pour un mois entier, habituellement, ils en reçoivent 90 mm en juin. Puis la seule journée où la maison a décroché, là, qui est tombée à cause du glissement de terrain, ça c'est lundi, il y a eu 32,3 mm.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est pas les quantités qu'il y a eu lors du déluge, là, parce que quand on pense au déluge, tu sais, ça s'était passé surtout en 48 heures, les 19-20 juillet. Ça avait été 170 à 200 mm d'eau.
Ouf.
En 48 heures. Fait que, tu sais, c'était pas le même phénomène. Si on avait dit que c'était une masse nuageuse qui était restée coincée à ce moment-là sur la réserve phonique des Laurentides, puis là, ben, ça avait causé tout ça. On appelait ça la virgule qu'on voyait là sur les radars. Bon, là, dans ce cas-là, c'est quand même pas autant de pluie, mais bon, c'est tout de même substantiel. Puis, t'sais, encore ce matin ici, il y a des averses épouvantables. Il y a eu des averses épouvantables. T'sais, on dirait qu'on ne sort pas de cette noirceur-là. Alors, c'est sûr qu'eux...
Ils y ont goûté, hein? On pourrait dire ça comme ça. Ils y ont goûté et surtout, c'est comme quand tu as vécu un traumatisme, parce que, disons-le, c'était ça. On se souvient tous hein, de la petite maison qui avait comme résisté avec des torrents d'eau qui l'entouraient, qui la contournaient, et la petite maison qui a résisté au flot, mais ça a marqué les esprits de tout le monde au Québec, mais ça a été vraiment un traumatisme pour les gens du Saguenay, donc on les salue et on les encourage de tout notre cœur. Écoute, Karine, tu voulais aussi nous parler, bon, c'est quand même assez particulier, parce que c'est la première fois, moi, que j'entendais parler de Saint-Ferdinand, un petit village tout simple, qui aurait toutes les apparences d'un petit village tranquille. Ben non, des descentes, des perquisitions dans le centre du Québec, parce que on soupçonne différentes personnes qui habitent là de faire partie d'un groupe néo-nazi. Il faut pas se fier aux apparences.
C'est particulier. Saint-Ferdinand, c'est tout petit au point que c'est à peine 2000 personnes qui habitent là. C'est dans le centre du Québec, proche de Thetford Mines, dans ce coin-là. Et donc là, ils ont la GRC a perquisitionné parce que, bon, selon ce que je disais dans la presse, là, ce serait une vidéo haineuse qui aurait été diffusée par eux. Et puis, bon, ils mènent des activités dans ce coin-là, dans des bâtiments désaffectés, une école, entre autres. Mais tu sais, imagine-toi les gens là dans ce petit village tranquille-là qui voient débarquer la GRC avec tout son équipement, ses camions. Ils comprenaient rien, les gens, là, puis... Puis c'est bizarre quand même qu'une organisation comme ça, parce qu'on parle de, excuse mon mauvais allemand, mais Atomwaffen, ça signifie arme nucléaire en allemand. Puis c'est un groupe extrémiste qui a des allégeances néo-nazies. Ça a été créé, on ne sera pas surpris, aux États-Unis en 2015. Puis officiellement, c'est supposé d'être dissous. Sauf que la GRC, entre autres, a trouvé quelques cellules qui étaient éparpillées. Bon, puis là, on en aurait une à Saint-Ferdinand. Et eux, leur but, dans le fond, c'est pas très rassurant, là, je te le dis tout de suite, là, c'est que ils considèrent que la société est corrompue. Puis ça, c'est au point où ils veulent la détruire. Pour la reconstruire à partir de leurs idéaux, là. Et puis ça veut dire que la société doit être dominée par les Blancs. Alors imagine-toi, là. C'est quand même particulier. Là, ils ont fait des meurtres, ils ont fait des actes de vandalisme aux États-Unis. Donc, c'est pas un petit groupe banal. Là. Donc, je peux comprendre là, pourquoi la GRC s'inquiète et laisse pas passer ce genre de regroupement-là. Maintenant, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils planifiaient. Hein. On en sait très peu. La GRC n'a pas été du tout volubile là-dessus. Donc ça, je m'interroge, on en saura probablement plus là, dans les prochaines semaines. Mais c'est drôle parce que dans la région de Québec aussi, on avait eu à l'ancienne Norette, qui est aussi un village, une petite municipalité. L'année passée, la GRC aussi était intervenue parce qu'il y avait un individu qui possédait, là, c'était comme un arsenal.
Ah
là,
oui! Je me rappelle
de
pas de ça.
Artisanale. Fait que, tu sais, des fois, on pense que c'est plutôt en milieu urbain, mais au contraire, tu sais, s'ils peuvent s'installer dans des petits endroits où ils sont moins surveillés, où ils sont plus à l'abri des regards, s'ils se tiennent tranquilles, relativement tranquilles, tu sais, les gens s'aperçoivent pas. Tu sais, d'ailleurs, c'était les témoignages des citoyens. Ils disaient, hier, quand la GRC est débarquée, ben, c'est une dame, là, qui vivait là, il élevait des chèvres. On n'a rien remarqué de particulier. Alors, quand tu sais ce qui pouvait peut-être se tramer, c'est très, très spécial.
Bien, surtout quand tu lis sur la philosophie de ce groupe-là, donc contre les différents groupes raciaux, les groupes ethniques, les groupes religieux. Et tu vois, je lis dans le journal ici, un des membres du groupe a déjà tué un jeune homosexuel juif de 19 ans après avoir participé à un camp de la haine. Allô, des camps de la haine. Si on regarde ça de façon plus large, est-ce que tu penses qu'on peut faire un lien avec, justement, pendant la pandémie, ça a exacerbé, tous les extrêmes, dans un sens comme dans l'autre, des gens qui ont été particulièrement isolés, qui se sont mis à développer toutes sortes de théories plus capotées, plus loufoques les unes que les autres. Est-ce qu'on peut remettre ça dans ce même contexte-là?
Ah, moi, je pense que oui, je pense que c'est lié, là, tu sais, tous ça a exacerbé plein de frustrations les gens isolés, justement, qui se sont plus regroupés sur les réseaux sociaux, qui ont créé des liens, qui se sont mis à en vouloir au monde entier, là, pour ce qui se passait, à dire qu'on était, nous, qui suivions des règles, des moutons, donc, tu sais, c'est un peu ça, là, eux, ils trouvent que la société, ça a pas de bon sens, qu'il faut la détruire, la refaire. Moi, je suis persuadée qu'il y a un lien dans la, tu sais, dans toute forme de radicalisation, là, ce qu'on a vécu depuis 2 ans et demi, on voit que ça a été exacerbé. Puis on sait pas, là, tu sais, qu'est-ce qui les animait exactement et tout, et qui était là-dedans, mais je suis persuadée qu'il y a un lien à faire avec tout ça, là.
Alors, quand tu penses que dans la vie, tout le monde est des moutons, tu t'en vas élever des chèvres à Saint-Ferdinand. Mon Dieu, écoute, la façon dont tu nous racontes ça, puis les témoignages qu'on voit, il me semble que c'est le début d'un film américain sur l'apocalypse. Tu sais, t'as un petit village perdu, t'entends des bruits de criquets, puis là, t'as une petite madame là, qui élève ses chèvres, puis là, tout d'un coup, l'armée débarque. Avec les armes, les gilets pare-balles et tout, le SWAT team qui débarque. Puis là, on découvre que c'est une complotiste à la tête. Non, mais je dis pas que c'est le cas dans ce cas-ci, mais cette description-là pourrait avoir l'air du début d'un film avec Tom Cruise ou je sais pas.
Complètement. Complètement. C'est un peu ça que le maire de Saint-Ferdinand, c'est un ancien journaliste.
Ah oui, ah oui.
Oui, Yves Charlebois disait que c'était complètement surréaliste. Tu sais, t'avais un monsieur qui tondait sa pelouse aussi, là, qui était en face, puis qui a vu débarquer la GRC avec tout son arsenal. Tu sais, on voit des photos dans le journal, c'est quand
oui,
même
oui, c'est
rien,
spécial.
Là, ils sont habillés comme des militaires armés, puis tout ça. Dans ton petit village, là, je pense que ça a dû jaser leur journée passablement.
Ils se souviendront longtemps du 16 juin 2022. Écoute, moi, je pense qu'il faudrait déjà choisir qui va jouer le rôle de la dame qui élève des chefs. Moi, je propose Julia Roberts. Je sais pas toi ce que t'en penses, là. Mais il me semble que, tu sais, pas maquillée avec les cheveux un peu défaits parce qu'elle est capable de se transformer beaucoup de Julia Roberts. Alors, Tom Cruise et Julia Roberts dans un film Scandale à Saint-Ferdinand, bientôt sur vos écrans. Karine?
Écoute, on s'appelle pour élaborer le scénario. Ça peut être payant, ça.
Oh oui, oui. Écoute, je suis déjà, tu sais, j'avais déjà proposé à un moment donné à Félix Séguin d'écrire un scénario avec lui sur l'histoire. Tu sais, les deux Québécoises qui avaient été impliquées dans oui. un trafic de cocaïne, là, qui étaient parties en croisière, elles avaient fait le tour du monde, finalement. Elles se sont fait pogner en Australie.
En Australie, ouais.
Et elles ont passé plusieurs années en prison. Là, je pense qu'il y en a même une qui est encore en prison. Je me souviens plus des détails, mais bref, j'avais dit à Félix, on s'écrira un scénario de film là-dessus parce que Hollywood, c'est sûr, va s'intéresser à ça. Alors donc, peut-être, Karine, toi et moi, on écrira un scénario sur Saint-Ferdinand. Merci pour cette belle saison, Karine. Ça a été super chouette. Puis on salue les gens qui nous ont envoyé des commentaires positifs sur les médias sociaux. Puis ceux qui nous ont envoyé des commentaires négatifs, ben, on vous souhaite de passer un excellent été et on vous retrouvera bientôt.
C'est une très belle opportunité. Ça a été vraiment un grand plaisir. Puis bon été à tous et à toi, Sophie.